Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 6 juin 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. L'Union africaine a annoncé la suspension du Soudan jusqu'à la création d'une autorité civile de transition. Au Tchad, condamnation à la prison à perpétuité de deux anciens chefs rebelles. Deux étudiantes canadiennes ont été enlevées à Kumasi, au Ghana, a annoncé la police. Les États-Unis dotent le Niger en matériel militaire pour plus de 21 millions de dollars dans le cadre du G5. Les Alliés ont commémoré le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. L'Union africaine a annoncé la suspension avec effet immédiat du Soudan jusqu'à la création d'une autorité civile de transition. Le point avec Abdourahmane Dia.
Pour le Conseil paix et sécurité, la suspension du Soudan de toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition est le seul moyen de permettre à ce pays de sortir de la crise actuelle. Le Conseil imposera automatiquement des mesures punitives sur les individus et les entités qui ont empêché l'établissement d'une autorité civile, a précisé le Sierra Leonais Patrick Kapua, président en exercice du Conseil paix et sécurité. Le 15 avril, soit 4 jours après le renversement du président Omar el-Béchir, l'Union africaine avait donné 15 jours pour le transfert du pouvoir aux civils. Début mai, elle avait réitéré cet ultimatum en donnant un nouveau délai de 60 jours. Les négociations entre la contestation et le conseil militaire sont suspendues depuis le 20 mai. Selon un comité de médecins proche des manifestants, en 3 jours, au moins 108 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées.
Ouverture au palais de justice de N'Djamena de la session criminelle spéciale à l'audience. 2 anciens rebelles sur 3 arrêtés en octobre 2017 au Niger sont condamnés à une peine d'emprisonnement à vie. Par ailleurs, la cour a déclaré 10 accusés à 20 ans de prison ferme. Le point avec notre correspondant André Kodmajingar.
Hassan Boulmaï et Yacoub Adam Yacoub, 2 anciens responsables de l'opposition armée arrêtés le 4 octobre à Agadez au Niger et transférés au Tchad, écopent une peine capitale. Le 3e, Abdrahman Issa Youssouf, est mort en prison. Dans sa réquisition, le 1er substitut du procureur général Taouga Bruno a requis une peine d'emprisonnement à vie contre les 2 accusés. Dans leur plaidoirie, les avocats de la défense qualifient d'enlèvement et de prise d'otage l'arrestation des prévenus à partir du Niger et dénoncent leur déportation au Tchad qui, selon eux, ne respectent pas les procédures de la coopération judiciaire entre les deux pays. Ils estiment que l'accusation visée par le premier substitut du procureur est couverte par l'ordonnance 19 portant amnistie des atteintes à l'intégrité de l'État du 7 juin 2018 signée par le président Déby, mais c'était peine perdue.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare Mohamed Hassan Boulmaï et Ahmad Yacoub Adam coupables de participation à un mouvement insurrectionnel. Les condamne à vie.
Yena Timothée, président de la cour d'appel de N'Djamena, rendant ici le verdict ce jeudi à la cour. Citant la même ordonnance 19, le premier substitut du procureur général de la cour d'appel de N'Djamena, Taouga Bruno, a souligné que la participation à une insurrection armée est punie de l'emprisonnement à vie au même titre que ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel et donc cette infraction n'est pas prise en compte dans cette ordonnance. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
100 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti de Maurice Kamto, ont été libérés après leur interpellation samedi pendant des manifestations, a affirmé Christopher Ndong, secrétaire général du MRC, ajoutant que 251 personnes sont encore détenues. Le vice-président de cette formation politique, Mamadou Mota, également interpellé le 1er juin, n'a toujours pas été relâché. Il a été transféré avec d'autres militants à la prison centrale de Yaoundé, où M. Kamto est détenu. La présidente de l'ONG gabonaise Agos, Marie-Claudette Ndagui, en prison depuis 5 mois, devait comparaître devant la cour d'appel ce 6 juin. Le 27 mai, l'audience en appel avait été ajournée afin de permettre un examen de ses accusations de corruption. Madame Ndagui a été arrêtée après avoir évoqué des cas présumés de détournement de fonds au bureau du procureur. Au Ghana, deux étudiantes canadiennes de l'université technique de Kumasi ont été enlevées, a annoncé la police aujourd'hui. Âgées de 19 et 20 ans, elles ont été kidnappées mardi soir après avoir quitté leur appartement. Les jeunes femmes sont des volontaires de Youth Challenge International. Le porte-parole du ministère canadien des Affaires étrangères, Guillaume Bérubé, a refusé de commenter ou donner quelque information qui pourrait ternir les efforts déployés pour garantir la sécurité des Canadiens. Au moins 5000 personnes proches de l'opposition ont manifesté ce jeudi à Bissau pour soutenir le président José Mario Vaz dans un bras de fer avec le parti majoritaire au Parlement sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale, préalable à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Malgré le bon déroulement des législatives du 10 mars remportées par le PAIGC, le pays peine à sortir de la crise politique depuis le limogeage en 2015 par M. Vaz du chef du parti Domingo Simoes Pereira, alors Premier ministre. Le gouverneur de l'État de Kano au Nigeria a annulé le défilé à cheval annuel organisé par l'émir Mouhamadou Sanoussi II pour des raisons de sécurité selon son bureau. En mai dernier, Abdoulaye Oumar Gandoudje a promulgué une loi divisant l'émirat de Kano en 5 émirats pour affaiblir l'influent émir. Le chef du Pentagone par intérim, Patrick Shanahan, a officiellement accepté les résultats de l'enquête sur la mort de 4 soldats américains au Niger en 2017. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Dans un bref communiqué, Patrick Shanahan se dit satisfait de toutes les conclusions, les récompenses et les actions de responsabilité. Fin de citation. Le 4 octobre 2017, des forces spéciales américaines et des soldats nigériens sont tombés dans une embuscade près du village de Tongo Tongo, au nord de Niamey. Les assaillants, équipés d'armes automatiques, de grenades et de mitrailleuses, avaient une grande puissance de feu. L'attaque a été revendiquée par des combattants affiliés au groupe État islamique. Le rapport final de l'enquête américaine a révélé une supervision insuffisante et un manque d'équipement approprié. L'enquête a aussi souligné que les combattants djihadistes étaient en surnombre. M. Shanahan précise que le Pentagone a pris des mesures correctives.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
38 vétérans canadiens ont été au cœur de la cérémonie dans leur pays du 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Des précisions avec Irénée Herman-Ungbo.
Ça fait se sentir bien de voir tout le monde, de voir qu'il y a encore de vieux camarades, a confié l'ancien soldat Alphonse Vautour en marge de l'hommage. Les vieux soldats, ça meurt pas, lance un autre ancien combattant francophone du New Brunswick qui doit souffler ses 100 bougies en octobre. Il revenait pour la première fois à Julo Beach, où il a débarqué dans un tank le 6 juin 1944. La cérémonie a rassemblé plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux jeunes. Près de 14 000 Canadiens ont débarqué le 6 juin 1944 sur la plage de Juno Beach. C'est à nous de préserver et protéger les valeurs pour lesquelles ils se sont battus, a déclaré Justin Trudeau, le premier ministre canadien, au terme d'une cérémonie de 2 heures, mêlant cornemuse, survol d'avions et témoignages. Édouard Philippe, le premier ministre français, a rappelé de son côté que les soldats canadiens étaient tous volontaires pour partir à l'autre bout du monde, au péril de leur vie pour défendre la liberté, l'état de droit et la démocratie.
À l'issue d'une réunion au département d'État américain à Washington, le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard a évoqué des progrès dans les discussions avec les États-Unis au sujet de l'immigration clandestine. La Maison-Blanche avait estimé plutôt que les Mexicains n'en faisaient pas assez pour stopper ce mouvement à destination des États-Unis qui pourrait imposer à partir de lundi des taxes douanières de 5% sur des produits importés du Mexique. Le président Donald Trump a estimé que beaucoup de progrès avaient été faits hier lors des discussions entre le vice-président Mike Pence et le chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo Ebrard, mais il a ajouté qu'il devait faire encore des efforts. Par ailleurs, M. Trump a dit qu'il déciderait, après le sommet du G5 en juin à Osaka, s'il mettrait à exécution sa menace de surtaxer la quasi-totalité des importations chinoises. Je vais rencontrer le président Xi, a déclaré M. Trump à l'occasion d'une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron à Caen, en Normandie, où il participait aux commémorations du débarquement allié. Et dans un nouveau rapport, l'Organisation mondiale de la santé révèle qu'il y a chaque jour plus d'un million de nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles dans le monde et recommande l'usage du préservatif pour stopper leur propagation. Ces infections font chaque année plus de 376 millions de nouveaux cas sur la base des statistiques de 2016, un chiffre qui n'a pas baissé par rapport à l'étude de 2012. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, qui vous est présentée bien sûr par Nani Talani.
Inauguration au Nigeria de la plus grande usine de fabrication de bouteilles de gaz à usage domestique en Afrique de l'Ouest. Elle a une capacité de production de 5 millions de bouteilles par jour pour satisfaire la demande locale et celle de la sous-région. L'usine veut accélérer l'adoption du gaz afin d'aider le gouvernement à mieux lutter contre l'utilisation du charbon de bois. La Sonangol, société nationale angolaise de pétrole, a signé un accord avec United Shine pour construire une raffinerie à haute conversion dans l'enclave de Cabinda. La structure aura une capacité de traitement de 60 000 barils par jour. Elle produira du gasoil, de l'essence, des huiles et du kérosène. La raffinerie permettra de limiter les importations de pétrole raffiné. Terminons avec la Sierra Leone, où la Société financière internationale veut investir 60 millions de dollars dans les opérations de sable minéraux de Sierra Rutile. La première tranche de l'investissement d'un coût de 20 millions de dollars permettra à la SFI d'obtenir 3,57% de participation dans Sierra Rutile. La deuxième tranche de 40 millions de dollars portera sa participation à 10% lorsque les premiers travaux de construction du projet Sembeoun auront été approuvés. Le gisement de Sembeoun représente plus de 70% des réserves de minerais restantes de Sierra Rutile.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, interrogé par les autorités françaises.
Oui, Jeune Afrique évoque une interpellation en rapport avec la rupture unilatérale d'un contrat entre la CAF et l'équipementier allemand Puma. La FIFA dit prendre note des événements présumés concernant M. Ahmad pour des allégations liées à son mandat de président de la CAF. La Fédération internationale soutient ne pas connaître les détails de cette enquête, mais demande aux autorités françaises toute information qui pourrait intéresser son comité d'éthique. Entendez par là la justice interne du football mondial. Le président de la CAF est présent à Paris dans le cadre du congrès électif de la FIFA qui s'est tenu hier dans la capitale française.
Neymar forfait pour la Copa América.
La superstar du Paris Saint-Germain, visée par une accusation de viol qu'il nie, a fait état de son indisponibilité pour la Copa América chez lui au Brésil en raison d'une blessure. Neymar, sorti en cours du match amical contre le Qatar 2-0 hier à Brasilia, souffre d'une rupture ligamentaire au niveau de la cheville droite, a annoncé la fédération brésilienne. Ney, le joueur le plus cher de la planète, 222 millions d'euros, a déjà raté près de 3 mois de compétition, dont les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour son club, après s'être blessé au pied droit, le même qui a subi une opération en 2017. Fin mai, le sélectionneur Tite lui a retiré le brassard de capitaine de la Seleção après qu'il a frappé un spectateur au visage lors de la finale perdue de Coupe de France, ce qui lui avait aussi valu 3 matchs de suspension ferme, plus 2 avec sursis.
On termine par du basketball, la NBA. Toronto est à 2 victoires de son premier titre.
Les Raptors mènent 2-1 dans la finale 2019 après avoir surclassé 123-109 Golden State, décimé par les blessures déjà privées de Kevin Durant. Depuis un mois, les Warriors ont enregistré le forfait de dernière minute de Klay Thompson. Sans deux de ses titulaires, Golden State n'a tenu le choc contre les Raptors que pendant 6 minutes. Son meneur Stephen Curry s'est pourtant dominé avec 47 points. Nouveau record personnel en playoff, mais Lowry, discret jusque-là dans cette finale, et le Congolais Serge Ibaka avait avec 6 contre ont définitivement écœuré les Warriors. Ces derniers peuvent cependant rectifier le tir dès demain avec le retour de Thompson et peut-être celui de Durant, leur meilleur marqueur attendu comme le sauveur.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. L'Union africaine a suspendu avec effet immédiat la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'organisation panafricaine jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Elle estime que c'est le seul moyen de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar le politologue et spécialiste de l'Union africaine, Ibrahima Kan.
Ça a des implications politiques, ça a des implications juridiques, mais aussi ça a des implications très pratiques. Par exemple, les implications politiques, ça veut dire que le Soudan, à partir d'aujourd'hui, ne peut plus participer aux activités de l'Union africaine, ne peut plus prendre part à la prise de décision politique au sein des organes de l'Union africaine et institutions de l'Union africaine. Ça veut aussi dire que le Soudan ne peut plus présenter de candidature, quelle qu'elle soit, pour des postes au niveau du continent. Vous savez qu'on va vers un sommet de l'Union africaine à la fin de ce mois à Niamey. Il y a des postes pour lesquels il y avait certainement des Soudanais. Le Soudan ne pourra plus les présenter. Les implications au niveau du pays, ça doit pousser à la recherche de solutions à la crise actuelle.
Est-ce que c'est une décision qui pourra avoir des effets sur le conseil militaire qui dirige le Soudan actuellement? Est-ce que c'est un conseil qui va sentir vraiment de la pression?
Certainement, sûrement de la pression, parce que les termes qui ont été utilisés sont des termes très forts. On ne doit pas seulement prendre l'aspect sanction. On a massacré une centaine de personnes. L'Union demande, impose des investigations par IGAD et par la Commission africaine. L'Union pense que dans ce qui se passe actuellement au Soudan, il y a des interférences extérieures. Elle veut mettre un terme à ces interférences extérieures. Et troisièmement, l'Union décide qu'on ne laissera plus le champ à l'armée et aux forces politiques de décider. L'Union demande à ce que l'IGAD soit l'intermédiaire maintenant entre les parties et à ce que aussi l'équipe de facilitation qui avait été mise en place joue un rôle important dans la recherche de solutions.
Et en dehors de ces mesures prises, quelles sont d'autres marges de manœuvre à la disposition de l'Union africaine pour faire fléchir le conseil militaire soudanais?
On parle aussi, au cas où il n'y aurait pas de progrès dans les conversations, de la possibilité de prendre des mesures individuelles, d'ordre individuel, concernant les membres du comité militaire.
Mais on a vu que dans certains pays, ça n'a pas fonctionné.
Les contextes sont maintenant différents. Dans le cas du Burundi, ce qui avait été la grosse difficulté, c'est que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est prenne une décision par rapport au Burundi. Et cela n'a pas été possible. Alors que dans le cas qui nous concerne, l'IGAD a déjà une position sur ce qui se passe au Soudan. On nous dit d'ailleurs que le président en exercice de l'IGAD, le premier ministre éthiopien, doit être aujourd'hui dans la capitale et doit demain rencontrer tous les acteurs.
Ibrahima Kan est spécialiste de l'Union africaine. Il était joint à Dakar.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, deux anciens chefs rebelles, Hassan Boulmaï et Amat Adami Yacoub, sont condamnés à la prison à vie. Trois chefs de groupes armés ont été arrêtés au Niger il y a 2 ans, puis extradés vers le Tchad. L'un est mort en détention et les deux autres ont écopé aujourd'hui de la prison à perpétuité. Pour une réaction, Idriss Fall a joint dans le sud libyen Mahamat Ali, président de l'Union des mouvements pour la démocratie et le développement, une coalition de 7 groupes armés tchadiens.
Au niveau de l'UNDD, on est profondément bouleversé et choqué par le verdict de prison à vie contre nos leaders Mahamat Hassan Boulmaye et Adam Yacoub. Nous pensons que la justice est prise par otage par Idriss Déby et par le président du Niger. On a bien lu dans les déclarations des procureurs général du Niger, a dit que les deux, il a déjà rédigé les mandats de transfert, c'est des leaders de Niger vers le Tchad, que c'est un enlèvement, c'est pas, il n'y a pas une procédure judiciaire normale entre les États. Pour nous, ce n'est pas un procès, c'est un non-lieu.
Il semble qu'ils étaient trois et il y en a un qui est mort en prison.
Au début, ils étaient trois, mais le professeur, l'ex-débuté Abdelmane Issayous, était décédé dans les prisons. Il a eu des traitements indignes de torture, des humiliations, donc il est décédé. Donc, on n'a pas statué sur son cas. Pour ça, Idriss a caché et maintenant, il va juger les autres. Ce n'est pas un procès, c'est une scène d'un régime dictatorial qui terrorise son peuple. Pour nous, ce n'est pas un verdict.
La prison à vie, est-ce que vous craignez pour leur vie dans l'avenir?
Mais ils vont l'amener à Torokoro, à une prison où l'autre, le député, est mort. Ils vont suivre les tortures. C'est un pays où il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Leur avocat n'a pas même de l'accès à les dossiers d'un régime dictatorial. Pourquoi nous, on a fait une coalition de sept mouvements, de UMDD, le mouvement pour la démocratie et le développement. Pour faire partie de ce débit, mais ni un rêve, ni un vœu, mais une aspiration légitime du peuple tchadien, un projet réaliste et un objectif souhaitable. Nous voulons être libérés. Idriss Déby est en train de gérer les Tchad comme des biens personnels.
Mais il y a eu beaucoup de groupes armés qui ont tenté d'aller prendre N'Djamena, mais qui ont été repoussés.
Maintenant, on a vu l'expérience passée. Maintenant, on a fait la coalition parce qu'on a des rebelles qui sont à la frontière libyenne, il y a d'autres qui sont à la frontière soudanaise, d'autres qui sont à la frontière de RCA. Donc, on a fait des connexions entre ces mouvements pour pouvoir, nous tous, on va réagir, et même à l'intérieur, à la société civile. Idriss Déby, pourquoi il n'est pas parti en 2008? Parce qu'il est soutenu par l'armée française.
C'est la même armée française.
IFRD.
J'ai dit, c'est la même armée française qui a bombardé une colonne rebelle.
L'intervention française est mal perçue par l'opinion publique française aussi. Il y a des mobilisations des parlementaires partout. Donc, nous, on est avec le peuple tchadien. Donc, le peuple tchadien nous soutient, notre cause.
Mahamat Ali, président de l'UMDD, une coalition de sept groupes armés tchadiens.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les États-Unis s'engagent à doter le Niger de plus de 21 millions de dollars pour ses efforts dans le cadre du G5 Sahel. Il a été procédé ce matin à la réception d'une partie de cet appui composée essentiellement de matériel et équipement militaire. Les précisions de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Ce premier lot a été remis au ministre de la Défense par l'ambassadeur américain au Niger. Il est composé de camions citernes pour le transport de carburant et de l'eau, de systèmes de navigation GPS, de tentes militaires et d'équipements individuels pour les soldats. Il sera suivi dans les mois prochains par des véhicules blindés et tactiques, du matériel de communication et des équipements de protection individuelle. Le principal destinataire, c'est le bataillon nigérien déployé dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. Le diplomate américain espère que cela va renforcer leur capacité pour améliorer la sécurité le long des frontières avec le Mali et le Burkina Faso face aux organisations extrémistes violentes. Eric Whitaker.
L'assistance fournie par les États-Unis à la force commune du G5 Sahel n'est qu'un des éléments de l'appui au secteur de sécurité et l'arrivée qui est la plus long terme fournie par les États-Unis au Niger. Par exemple, le Bureau de coopération en matière de sécurité de l'ambassade a pris des dispositions pour que le Niger reçoive 22 véhicules de transport de troupes blindes de Mamba. En outre, les États-Unis ont fourni 4 aéronefs Tesla C-208 de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR. De l'évacuation médicale et assurer des formations à leurs pilotes et leur équipe maintenance.
Aujourd'hui, ces véhicules et les avions blindés soutiennent directement les opérations et ont apporté une contribution importante à la lutte contre le terrorisme.
C'est un appui précieux et qui vient à point nommé, a déclaré le ministre de la Défense en réceptionnant le don, Kala Moutari.
Depuis l'année 2017, les États-Unis se sont résolument engagés à apporter leur contribution à la montée en puissance du bataillon du G5 Sahel. Pour ne parler que de ce bataillon, parce que la coopération entre les États-Unis et le Niger est une coopération riche, elle est soutenue et c'est une coopération qui a enregistré beaucoup d'appui, beaucoup d'échanges en matière d'appui matériel comme en matière de formation. Ce matériel que nous réceptionnons aujourd'hui représente une partie de l'appui combien important que la coopération militaire américaine apporte aux forces armées nigériennes et au-delà à tout le Niger dans la lutte contre les forces du Mali. Permettez-moi de vous assurer de l'utilisation à bon escient de ce matériel si précieux et qui vient à bon nommé pour renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la sécurité dans la région.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Confédération africaine de football a décidé de faire rejouer sur un terrain neutre la finale retour de la Ligue des Champions entre l'Espérance sportive de Tunis et le Wydad de Casablanca. Ce match se disputera après la CAN qui débute dans 2 semaines en Égypte. La CAF a tranché en faveur des Marocains qui, vendredi dernier, se sont retirés en plein match pour protester contre la panne de l'assistance à l'arbitrage vidéo. Celle-ci aurait pu permettre de leur valider un but refusé par l'arbitre. Yacouba Ouedraogo, pour plus de précisions, a joint Jules Valentin Ngoué, consultant sportif.
Cette décision de la CAF est tout simplement un prétexte, en quelque sorte, ou alors un faux fuyant. Et le fait de faire rejouer ce match alors qu'une des équipes avait totalement refusé de jouer jusqu'à la fin de la rencontre et pose un précédent. Et il faut, pour la CAF, trouver un subterfuge pour essayer de chercher une autre raison qui lui donne la possibilité de reporter le match plutôt que la véritable raison. Je crois que c'est ça le problème de fond.
Vous dites que l'une des équipes a refusé de poursuivre le match. Vous parlez du Wydad ?
Bien sûr, il s'agit du Wydad et ça c'est un fait sans précédent à ce niveau de la compétition. Et le verdict a toujours été clair. Une équipe qui abandonne le terrain avant la fin de la rencontre est tout simplement battue.
Le Wydad a évoqué les conditions de jeu qui ne sont pas réunies et les conditions de sécurité également. Et parlant des conditions de jeu, le Wydad a estimé que l'absence de la VAR biaisait un peu l'égalité des chances dans la mesure où il y a eu la VAR au match aller.
La VAR n'existe pas depuis longtemps. On jouait bien sans la VAR. Et même avec la VAR, il arrive qu'on laisse la responsabilité à l'arbitre. Et je crois même que c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire, en fin de compte, l'arbitre prend sa décision et lorsque la VAR l'amène à réfléchir, à avoir l'action un peu plus profondément, mais la décision revient à l'arbitre. Donc, à partir du moment où l'arbitre a pris sa décision, il n'était pas question de revenir dessus. Et on ne voit pas pourquoi l'équipe du Wydad pouvait refuser de poursuivre le match, quitte à faire des réserves qui seraient donc analysées beaucoup plus tard.
L'Espérance de Tunis dit qu'elle n'a pas encore terminé avec cette affaire dans la mesure où elle dit accepter, rejouer le match, mais hors de la Tunisie, cela lui pose problème et du coup, l'Espérance entend saisir le TAS.
Ça, c'est une palabre qui va nous amener à nous poser des questions sur la véritable autorité du président de la CAF actuelle qui, généralement, prend une décision, et là, c'est le cas, c'est pratiquement un flagrant délit, il a pris la décision sur le champ, et qui, quand il rentre, semble être influencé ou bien se confronter à des personnes qui sembleraient lui être supérieures.
La CAN, c'est dans 2 semaines, l'arbitrage vidéo sera utilisé à partir d'un certain niveau. Est-ce qu'il faut craindre?
Bien sûr qu'il faut craindre, mais encore faut-il que cela fonctionne. Si elle fonctionne normalement, les choses sont quand même claires. C'est l'arbitre qui a en fait le dernier mot. Et donc peut-être que ces événements qui se passent maintenant nous amèneront à prendre plus de précautions d'abord au niveau du staff complet qui sera mis en coulisses pour surveiller et analyser de très près les actions et ensuite le choix des arbitres et les instructions qui leur seront données dans ce sens.
C'était Jules Valentin Ngoué, consultant sportif. Il était joint à Libreville, au Gabon. Et c'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Joselle Morissin à la console, Tian Wang à la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique. À très bientôt.